Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
RMC, question de confiance.
Apolline de Malherbe.
Bonjour Jean-Luc Mélenchon.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions de confiance au matin de cette ultime journée de campagne. Dernière grande interview donc avant le premier tour. C'est la troisième fois que vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Les intentions de vote en votre faveur connaissent une très forte dynamique ces derniers jours, vous plaçant à l'instant où l'on se parle en troisième position. Tout peut encore changer, en tout cas vous l'espérez bien sûr. Vous espérez accéder au deuxième tour. Je rappelle vos scores précédents. En 2017, vous aviez fait 19,58%. Vous étiez arrivé en quatrième position. En 2012, vous aviez fait 11,1%. On va évidemment revenir sur les grandes lignes de votre programme, mais un mot d'abord de l'Ukraine, parce que hier soir, le Parlement européen a voté l'embargo sur le gaz et le pétrole russe. 513 voix pour, 22 voix contre. Est-ce que vous êtes toujours opposé aux sanctions ?
Mais je n'ai jamais été opposé aux sanctions. Je suis opposé au fait qu'on répète que je suis opposé aux sanctions.
Alors,
je suis partisan des sanctions efficaces. J'ai dit, quand des sanctions ont été proposées, mais je promets à tout le monde que je ne commettrai plus l'erreur de dire ce que je pense, que les sanctions avaient été inefficaces dans la plupart des pays du monde, que ce soit contre l'Iran ou contre qui on veut, ou la Syrie, etc., qu'on n'était arrivé à rien. Que donc, il fallait cibler les sanctions sur les oligarques autour de Poutine pour le faire craquer. Parce que nous avons un problème énorme avec cet homme. C'est la première fois que quelqu'un sur le continent européen viole les frontières du voisin, massacre des gens et se livre à des crimes de guerre. Donc, nous avons un problème avec la personne de M. Poutine, en effet, en plus des raisons politiques. Bref, les sanctions, quand c'est utile. Mais bien sûr que je suis partisan que des sanctions isolent le gouvernement russe de toutes les manières possibles. Et là,
quelles seraient les sanctions efficaces ?
Celles qui
seulement les oligarques ?
Non, pas seulement. On peut faire d'autres sanctions, ça crée un environnement. Mais il faut taper le cœur du système, parce que sinon, ils ne céderont pas. Il faut qu'il y ait un problème entre eux, pour qu'il soit conduit à pressionner Poutine, qui, d'après ce qu'on peut savoir, apparaît dans le moment comme un homme plutôt seul à l'intérieur de l'appareil qui est au pouvoir en Russie. Et je crois qu'on a une chance d'y arriver. Alors là, des sanctions ont été décidées. Oui, des sanctions, prenons-les. Il faut faire attention à ce que les sanctions ne nous punissent pas, nous d'abord. Bon, et puis ensuite...
Mais si elles nous punissent un peu, est-ce que c'est pas le prix à payer ?
Ça dépend comment et dans quelle ampleur, c'est ça qu'il faut mesurer. Mais si vous voulez, il me semble qu'un responsable politique ne doit pas aller dans une logique d'esprit de plateau de télévision.
Si on arrête par exemple, on sait que c'est 90 euros à peu près qui a été calculé, qui vont retomber en effet par français sur la France.
Oui, 90 euros, il y a des gens pour qui ça fait vraiment beaucoup, en plus du reste. Donc, faut y aller doucement avec les sacrifices des autres, parce que personnellement...
Donc, vous n'arrêteriez pas de vous fournir en Russie ?
J'essaierai de prendre les mesures d'alternative. C'est ça qui me frappe, puisque nous y sommes. Quelle est pour nous l'alternative ? Nous nous fournissons en gaz auprès des pays de l'Europe du Nord et auprès de l'Algérie. Bien. Aujourd'hui, cet exemple est sur la table et je veux à tout prix profiter de la circonstance pour en dire un mot encore. La spéculation sur les céréales fait exploser les prix. 68% du blé qui est utilisé en Algérie, vient de France. Nous avons donc un intérêt à dire que les Algériens vont pouvoir disposer de blé à prix constant. Donc il faut bloquer les prix et les stocks. Et eux ont du pétrole et du gaz. Donc il me semble qu'ils pourraient nous garantir...
On pourrait faire céréales contre
pétrole
et gaz.
Voilà, exactement. Et on pourrait avoir la même discussion avec les Tunisiens et avec les Marocains. À condition de un peu penser plus loin que le bout de notre nez. On prend des mesures de représailles à juste titre. Ça crée une tension sur les marchés parce que les marchés spéculent et on fait comme si ça nous concernait pas. Il faut prendre des mesures parce que si nous avons une catastrophe sociale dans le Maghreb, clairement, nous aurons à en connaître. J'ajoute que pour les Français, je veux être certain que les céréales françaises seront accessibles aux Français et pas seulement à l'export parce que les spéculateurs en tireraient un bon prix. Pour me résumer, par rapport à votre question, c'est que je pense qu'à chaque fois qu'on prend une décision, il faut en mesurer les conséquences, essayer de trouver la parade. se priver du gaz et du pétrole russe, oui, à condition d'en trouver ailleurs. Et pas de dire tranquillement, ben ça va coûter 90 euros par français. Je ne dis pas que vous l'ayez dit, mais ceux qui nous disent ça vont un peu vite avec l'argent des autres.
On va revenir d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, sur un des mots que vous venez de dire, bloquer les prix, parce que vous voulez bloquer les prix, notamment oui, face à la hausse du prix de l'essence. Mais encore un mot sur les questions ukrainiennes, parce qu'on voit qu'au fond, vos pires adversaires ces derniers jours, c'est plutôt ceux qui sont dans la grande famille de la gauche, qui visiblement est une famille très éclatée. C'est Yannick Jadot. Le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il est tellement anti-américain qu'il a soutenu toutes les dictatures qui étaient anti-américaines.
Je réponds pas. Parce que ce sont des polémiques.
C'est un peu facile de pas répondre, Jean-Luc Mélenchon.
Non, ce n'est pas facile, madame. Croyez-moi, j'ai la langue qui me pique. Parce que des réponses, je pourrais en donner 10 et qui remettraient tout le monde à leur place. Hein, parce qu'il y a une manière et manière d'être aligné. Mais je ne veux pas. Pourquoi? Parce que je répondrai moi-même le sentiment que nous sommes que chaos, querelle, je ne veux pas répondre à ça. Pourquoi? Parce que ça pousse à la résignation. Et c'est pas le moment de faire ça. Nous avons au contraire besoin de mobiliser. Et nous ne mobilisons pas si nous passons notre temps à nous
jeter des pierres. Mais il n'y a pas que Yannick Jadot. Anne Hidalgo dit la même chose. Hein. Quand on voit Jean-Luc Mélenchon avec cette position si radicale, des positions qu'on ne peut pas suivre sur l'Ukraine, sur la scène internationale, ou même sur la République et la laïcité, je me dis que l'alternative, c'est cette offre que je porte.
Pourquoi pas? Que chacun réfléchisse et se demande si l'offre que porte Madame Hidalgo paraît être une solution meilleure pour le pays. Pourquoi pas?
Sur l'Ukraine, c'est devenu quand même un clivage entre vous, encore en plus des autres
clivages. Il fallait bien qu'ils en trouvent. Hein. Alors, ils ont trouvé ça. Bon, le contraire, l'Ukraine, c'est... Il devrait plutôt se dire, cet homme a quand même eu raison, parce que ça fait 10 ans que je dis, ça va mal tourner, à cause de cette histoire de frontière avec la Russie. J'ai eu, sur des plateaux de télé, des fois, les gens me disaient, ah, vous croyez vraiment, c'est pas un sujet qui intéressait. Mais je pourrais vous en citer d'autres.
Mais vous avez commencé par parler des provocations américaines, en effet.
Oui, parce que le moment où ils avançaient beaucoup avec l'OTAN, ils en ont fait beaucoup. Mais après, moi, je suis un non-aligné. Donc, j'ai dit dès le départ, les Américains ne prennent pas l'Ukraine dans l'OTAN et les Russes passent pas la frontière. Les Russes ont passé la frontière, à 5h30 du matin, à 7h, j'ai dit c'est eux qui portent toute la responsabilité.
Aujourd'hui, Ursula von der Leyen sera à Kiev. Est-ce que vous iriez, vous aussi?
Moi, à Kiev?
Est-ce que vous trouvez que c'est la place de l'Union européenne d'aller à
Je
Kiev?
Crois que oui, parce que le pays est envahi, parce qu'il s'y commet des crimes de guerre. Et que il est important que les nations démocratiques de l'Europe montrent qu'elles ont un autre message devant le monde et que c'est pas Monsieur Poutine qui décide de ce que va être l'ambiance sur le continent. Maintenant, je suis inquiet d'un point qui n'apparaît pas assez, je trouve, dans les commentaires, qui ne fait pas assez réfléchir. Le vote qui a eu lieu aux Nations Unies m'inquiète. 93 voix pour sortir les Russes du Comité des droits de l'homme. Et 58 qui s'abstiennent. Ça signifie
qu'est-ce qui
que
vous inquiète? C'est les 93 ou les 58?
Ben, qu'il y en ait 58. Mmh. Et plus de 25, je crois, qui votent contre. Ce qui signifie que la capacité d'entraînement qu'ont les pays, les démocraties traditionnelles, et sont devenus faibles par rapport au reste du monde et du reste des autres nations.
Vous redoutez une grande division du monde avec d'un côté la Russie, la Chine, peut-être même l'Inde?
L'Inde, et puis regardez tous ceux qui sont abstenus, c'est vraiment beaucoup de monde. Donc je crois qu'il est absolument indispensable de repenser notre vision du monde. C'est pourquoi moi, je dis que la France doit s'affirmer non alignée, et deuxio, altermondialiste, c'est-à-dire essayant d'identifier les nations, de faire des coalitions sur des sujets d'intérêt mondial, du genre le tribunal climatique international, le tribunal pénal international. Figurez-vous que ni les États-Unis ni les Russes ne l'ont signé. Alors nous, qui acceptons ça, nous nous trouvons dans une situation incroyable, on ne peut pas juger les criminels de guerre. Ou bien la proposition qu'avait fait François Hollande, et que je trouve très bonne et que je soutiens, il avait dit quand il y a crime de masse et crime de guerre, la France s'engage à ne jamais utiliser son veto. Et il demandait que l'Assemblée Générale des Nations Unies interdise qu'on utilise le veto quand il y a crime de masse. Eh bien, supposez que la guerre soit pas un crime de masse, mais vous comprenez ce que je veux dire. Eh bien, il y a 104 nations qui l'ont appuyé. Eh bien, si je suis président, je pousserai à ce qu'on ne puisse plus utiliser le droit de veto lorsqu'il y a crime de guerre.
Jean-Luc Mélenchon, pouvoir d'achat, c'est la préoccupation numéro un des Français. Une partie de cette question de pouvoir d'achat découle de la situation en Ukraine, mais il y a aussi beaucoup de ces questions-là qui étaient là bien avant. Face à l'inflation, vous dites que vous bloquerez les prix. Les prix de quoi? À quel niveau de prix et pendant combien de temps?
Alors, Le combien de temps, il faut espérer que ça soit le plus bref possible. Le temps de faire cesser la spéculation. Parce que j'y insiste, l'explosion des prix n'a pas d'autre source que la spéculation. Il y en a une petite partie qui existait avant, qui était du fait que les chaînes d'approvisionnement s'étaient démembrées après la Covid-19. Mais depuis, nous avons un effet purement spéculatif sur le pétrole.
En fait, ce qu'on paye aujourd'hui, c'est pas l'immédiate réponse à l'Ukraine, c'est la réponse, en fait, à l'inflation globale, à la spéculation, c'est ça.
Alors,
ce que vous nous dites.
Alors,
c'est pas une question vraiment de pénurie ou de... Non.
Non, il n'y a pas de pénurie.
C'est une question spéculateur.
C'est purement spéculatif. Et s'ils le voulaient, les pays de l'OPEP pourraient, ils ont sous le pied 4 millions de barils qu'ils pourraient sortir de plus par jour. Je ne dis pas que ce soit génial écologiquement, mais en tout cas, ça éviterait la spéculation. Et puis surtout, ça éviterait qu'on dise aux gens, écoutez, puisqu'il y a...
Je vous repose ma question très concrète.
Ouais.
On bloque à quel niveau? Et le combien de temps? On a bien compris que c'était difficile de savoir, mais on bloque à quel niveau et sur quel panier,
allons-y.
De produits?
Le niveau d'abord, je le bloquerai au niveau où j'avais, quand j'ai fait la première proposition. C'était 1,40€.
Le litre.
Deuxième, oui. Sur quel produit? Il faut faire un panier de produits qu'on discute avec les associations de consommateurs, les syndicats et aussi les syndicats de producteurs, hein, de manière à ce qu'on comprenne bien qu'il ne s'agit pas de moins payer les producteurs. Les paysans, leurs prix seront garantis. Je voudrais vous rappeler que pour 1€ que vous payez dans l'alimentation, il n'y en a que 8 centimes qui arrivent aux paysans. Bon, alors après, est-ce que c'est possible? Oui, il y a un article 410...
Emmanuel Macron vous répond ce matin dans les colonnes du journal Le Parisien, il dit « Je ne sais pas comment ça marche, les prix ne sont pas administrés en France ».
Je vais le lui dire, puisqu'il ne le sait pas. C'est l'article 410-2 du Code du commerce qui permet de bloquer les prix. Et je voudrais dire à M. Macron que ça doit être la surcharge de travail, mais il a oublié que lui-même a bloqué les prix sur les masques et sur le gel, vous savez, le hydroalcoolique, hein, ce qu'on utilise.
Donc il sait
lui,
le faire.
Il sait le faire. On sait le faire. C'est pas un problème juridique. Après, il y a le panier. Et puis surtout, on sait faire pourquoi. Je vous en donne un exemple. Aujourd'hui, les prix sont bloqués et contrôlés dans les DROM, et notamment à La Réunion. Je prends l'exemple de La Réunion parce que je trouve que leur solution est la bonne.
Et puis vous en venez en plus.
Bon, La Réunion, le préfet a bloqué, mais il a créé un panel, il y a un groupe de citoyens tirés au sort, etc., qui fixe les produits dont les prix vont être arrêtés. Il bloque comme ça 153 produits. Aujourd'hui, à La Réunion, vous roulez avec de l'essence à 1,71€. Alors qu'on vient pas me dire, c'est pas possible. Et est-ce que La Réunion manque de carburant? Non. Il y a toujours quelqu'un pour vous vendre du carburant.
Pour récupérer des sous, vous voulez aussi réquisitionner les surprofits des entreprises du CAC 40, faire une sorte d'année blanche des surprofits, c'est-à-dire?
Eh bien, j'ai observé que pendant la crise Covid et maintenant, des tas de gens sont, des tas de gens sont en train de plonger dans la misère, hein, déjà en plus du reste. Mais tout le monde a perdu de l'argent. Enfin, je veux dire, les petites entreprises, les auto-entrepreneurs, pas les très grandes. Alors, on peut dire, écoutez, c'est année blanche pour eux, c'est année blanche pour vous. C'est-à-dire que vous prenez, allez...
Où est-ce que vous mettez la barre?
Alors,
à partir de laquelle vous prenez?
Je vais dire une chose.
Alors là, bon. Pour ceux qui nous écoutent sur AMC, je vois que vous prenez votre stylo et que vous allez me faire un schéma.
Je vais pas être confiscatoire. Il y a un capital qui a été investi, nous sommes toujours dans une société capitaliste. Bref, je vous promets que vous pouvez vous prendre des dividendes qui vous permettent de rentrer au moins l'inflation. C'est-à-dire, votre capital ne sera pas déprécié. Et ensuite, j'ai dit, ma première idée a été de dire, on prend tout le reste, c'est-à-dire tout ce que vous avez en valeur, en dividende, c'est remis en circulation dans l'économie. On m'a dit, tu vas trop fort. Donc, on a coupé la poire en deux, on a dit, on vous en prend la moitié. Il faut vous rendre compte que 54 milliards de dividendes pour le CAC 40, ça parle pas des autres, je parle pas des petites entreprises, hein, on se comprend bien.
On a bien compris, là, ce sont les entreprises du CAC 40.
Les 54 milliards, c'est 1 million de personnes au travail pendant un an, avec un salaire moyen de 2 000 €. Alors, j'estime que quand on est en période de crise, où tout va mal, où il y a 8 millions de personnes à l'aide alimentaire, 13 millions qui peuvent plus chauffer, bon, tout le monde peut mettre la main à la poche. Et ceux qui ont le plus, mettent le plus la main à la poche. Parce que les autres, il n'y arrive plus. Et vous savez, quand je le dis, je vois bien que ça choque, parce que, quelles que soient les opinions politiques des gens, qu'ils soient de droite ou de gauche, etc., ils sont pas d'accord pour que 5 personnes possèdent autant que 27 millions d'autres. Ça, c'est même plus une affaire d'opinion politique, c'est une affaire, disons, de décence. On pense que, bon, il faut qu'il y en ait pour tout le monde, peut-être plus pour certains, disent certains. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait plus pour ceux qui ont le moins aujourd'hui. Mais vous voyez, nous sommes les Français, en général, d'accord pour un certain idéal égalitaire.
Ça me frappe dans...
Là, ça va trop loin.
Ça me frappe dans votre expression, vous avez dit, nous sommes toujours dans une société capitalistique. Oui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous vous dites quand même, à terme, il faut en sortir, il faut sortir du système libéral, il faut aussi sortir du système capitaliste.
Ah ben oui, ça c'est ma conviction personnelle.
Mais vous le ferez pas tout de suite.
Ben moi, j'ai un programme de transition, qui est une transition entre la société telle que nous la connaissons et une autre. Je suis assez maintenant expérimenté pour savoir que ça sert à rien de dire que ça va se passer comme ci et comme ça, parce que la société
du futur... Pourquoi? Parce que ça ferait
peur? Ben c'est la jeune génération qui va l'inventer. Les ruptures avec le capitalisme, je peux vous en citer, qui font l'unanimité des Français. Par exemple, décider que l'air, l'eau et l'énergie est un bien commun, vous aurez du mal à trouver des gens pour dire le contraire, même s'ils sont de droite. Hein. Et même, j'ose dire, certains capitalistes. L'air, l'eau, l'énergie sont des biens communs. La jeunesse de ce pays l'a compris, elle est très radicale sur le sujet, moi aussi.
Et je rappelle d'ailleurs que sur les questions d'écologie, vous faisiez partie des premiers à dire que ça devait être un des enjeux très importants. Sur les emplois, dont vous venez de dire que vous pourriez, au fond, payer 1 million de personnes à 2000 euros avec tous ces surprofits, parmi les créations d'emplois que vous voulez faire, 1 million d'emplois créés dans les services publics, notamment dans la dépendance, dans l'éducation nationale, à l'hôpital et dans la justice. Je voudrais qu'on parle sécurité.
Juste un mot pour que tout le monde l'entende. Quand on parle de la fonction publique ou de n'importe quel emploi précaire, comme de l'augmentation du SMIC, de qui parle-t-on dans ce pays ? Des femmes. 60% des gens au SMIC sont des femmes. 80% des emplois précaires sont des femmes. Donc, je veux dire, si je suis élu, les 800 000 précaires de la fonction publique seront tous, s'ils sont d'accord, titularisés. Parce qu'il y en a marre de faire vivre les gens dans l'angoisse et les tenir à la gorge quand ce sont majoritairement, je viens de le dire, des femmes qui déjà assument des responsabilités qui sont écrasantes. Donc vous voyez, il faut jamais oublier une chose, c'est la réalité humaine de la décision économique. De qui on parle à chaque fois?
Et c'est dit. Sécurité, la famille d'Ivan Colonna porte plainte contre l'État. Vous estimez-vous qu'il y a en effet une responsabilité de l'État?
Oui, et puis on a intérêt à un geste d'apaisement. Il y a un moment dans la vie, il faut savoir faire redescendre les conflits. Bon, Monsieur Ivan Colonna a été condamné pour avoir assassiné le préfet Erignac. Il ne l'a jamais reconnu, mais il a été jugé. Vous, moi, nous sommes ni juges, ni policiers. C'est un fait. Il a été mis en prison à perpétuité pour ça. Mais il n'est pas condamné à mort. Et l'État a un devoir d'assurer la sécurité des détenus. Je vais même plus loin. Dans la vision républicaine, la privation de liberté était une peine qui s'assortissait d'une forme de rédemption. Il faut se transformer. Bon, aujourd'hui, on a oublié tout ça, vu les conditions dans lesquelles vivent les détenus. Mais donc, Monsieur Colonna, on ne peut pas accepter que parce que c'est Monsieur Colonna, on peut le tuer. Or, il semble que la scène ait duré plusieurs minutes.
8 minutes.
Il y a la responsabilité de l'État est engagée. Je ne mets pas en cause les gardiens, le directeur de la prison, mais je dis l'État. De même, dans l'affaire de Monsieur, il faut savoir le faire. Pourquoi? Ben, parce que ça dit aux Corses, bon, ok, on reconnaît qu'il y a eu une erreur lourde, grave, une faute grave.
Vous dites
et on l'a
de
reconnaît.
Même dans l'affaire de
Monsieur Paty. Pourquoi?
J'allais y venir, puisque la même journée, hier, la famille de Samuel Paty a également porté plainte contre l'État ne pas avoir empêché l'assassinat.
Absolument.
De Samuel
Paty. Pour ma part, de ce que j'ai pu observer, je leur donne raison. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je l'ai dit, je me suis fait traiter de tous les noms, y compris dans l'Assemblée nationale, parce que j'avais posé une question, je ne sais plus si moi ou quelqu'un d'autre, et quelqu'un m'a pris à partie en disant, mais comment osez-vous mettre en cause l'administration rectorale? Mais nous savions déjà tous à l'époque qu'il y avait eu un problème et que l'administration rectorale avait dit, il n'y a pas de problème. Ben si, il y en avait un. Alors donc, au minimum, il y a une faute. Et donc, je pense que la famille a raison de porter plainte. On ne doit pas s'habituer dans ce pays à ce que des gens meurent sans qu'il y ait d'enquête, ou à ce que des gens soient blessés ou autre. Alors, je pense que dans chaque cas, il faut faire preuve de fermeté, encore une fois, d'une manière constante, pas quand ça me plaît, ou quand tout d'un coup ça me choque, moi. Dans tous les cas, et notamment quand il s'agit de l'État, il faut se souvenir que l'État doit être exemplaire. C'est peut-être dur, c'est peut-être trop exigeant, mais il est exemplaire. Ou il n'est pas l'État de tous les Français.
Jean-Luc Mélenchon, sur les questions de sécurité, sur les questions de laïcité. Laïcité d'abord, vous n'interdirez pas le port du voile. Est-ce que vous reviendrez même sur les interdictions de la burqa, par exemple, ou non?
Ah ben non.
Vous gardez la loi telle qu'elle est?
Ah ben oui, parce que j'ai déjà dit à l'époque pourquoi je ne le fait pas ce matin, le droit à être dévisagé doit exister. Quant au voile, il s'agit de toute autre chose. Quand les enfants sont à l'école, ils sont petits, leur jugement on dit, n'est pas formé tant qu'ils ne sont pas majeurs. Donc, on doit respecter une stricte neutralité de l'école contre tous les signes religieux d'une manière générale. Pas de propagande, ni politique, ni religieuse, à l'école. Ensuite, quand on arrive à l'université, il s'agit d'adultes. Enfin, on va pas se donner le ridicule de faire une police du vêtement à l'inverse de l'Iran.
C'est une police du vêtement ou c'est une police de la religion?
Mais c'est revient au même dans ce cas-là.
Bah, pas vraiment, si.
Ah ben si, parce que pour les femmes qui portent un voile pour des raisons religieuses, c'est un signe de soumission à Dieu. Alors, et aux hommes aussi, peut-être, on peut avoir cette discussion.
Mais ça vous dérange pas, par exemple, la soumission d'une femme à l'homme?
Eh bien, ça me dérange beaucoup. Mais je ne confonds pas la loi et mes propres opinions personnelles. Moi, j'essaye de convaincre, et d'ailleurs, elles le font elles-mêmes. Moi, j'ai déjà parlé avec des copines comme ça. Et on leur dit, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tu défends l'égalité et tout, puis après, tu te soumets à l'homme. La réponse est toujours la même. Je me soumets pas à l'homme, je me soumets à Dieu. Eh ben, madame, allez-y. Peut-être que vous avez des convictions religieuses, mais tout être humain, depuis 200 000 ans, hein, si c'était il y a 8 jours, on pourrait dire, bon, on va s'arranger avec ça. Mais non, on peut pas s'arranger. Donc, les gens qui croient ont toujours considéré que la loi de Dieu était au-dessus de toutes les autres lois. Pour autant, on respecte la loi. Là, nous avons des majeurs, d'accord? Et la liberté, la loi de 1905, est une loi de laïcité, de séparation de l'Église et de l'État, pas une loi d'athéisme. Enfin, c'est moi qui vous parle et qui vous dis ça, qui est pendant des années et encore maintenant maintenu la volonté d'une séparation stricte
du religieux et du politique. Jean-Luc Mélenchon, oui. Sur les institutions, vous voulez passer à la 6e République. Vous mettez quoi exactement derrière ce titre?
Ben, j'essaye d'embêter le moins possible parce que je propose de convoquer une constituante. Alors on dirait, ben dis donc, c'est bizarre, tu nous convoques puis tu nous dis avant ce qu'on doit décider. Ce que je sais, c'est que la monarchie présidentielle est usée, elle est à bout de souffle, ça tourne au ridicule. On voit combien confier trop de pouvoir à un seul individu finit mal. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, nous sommes des Français, donc nous écrivons des textes. Les Anglais font pas ça, hein. Et à intervalles réguliers, on se ressource dans un texte. La nation française a besoin de se ressourcer, de se ressouder, de se réhomogénéiser en se reconnaissant
les
droits.
Vous espérez, bien sûr...
Mais par contre, il y a deux choses sur lesquelles je suis très ferme. Et y compris, je les ferai voter séparément s'il le faut.
Allez-y.
C'est le référendum d'initiative citoyenne pour donner aux citoyens la possibilité de faire la loi, dans des conditions bien sûr organisées, et le référendum révocatoire pour pouvoir chasser un élu dont une quantité X de personnes s'étant déclarée, décide que ça suffit du président de la République au conseiller municipal du coin.
Si jamais vous n'étiez pas au second tour, est-ce que vous donneriez une consigne de vote ou est-ce que comme la dernière fois, si ce sont les mêmes, bah, vous aurez la même réponse, c'est-à-dire on ne fait rien?
Non, mais quelle que soit la situation, voilà, qui suis-je? Le candidat de plusieurs mouvements est parrainé par 320 000 personnes. Ces 320 000 personnes qui m'ont parrainé donneront les consignes, diront ce qu'elles comptent faire elles individuellement. Je pense, pour être bien franc et bien direct, que les consignes n'ont plus de sens aujourd'hui, d'une manière générale, et que je vois pas pourquoi. Moi, j'irai fracasser ce que j'ai construit en donnant une consigne qui, de toute façon, ne fera pas l'unanimité.
Mais c'est pas un peu facile, ça, encore, de dire...
Oui, bah, c'est toujours, c'est curieux, mais...
La
vraie facilité...
À un moment, il faut y aller, non?
Bah, à un moment, il faut y aller, merci du conseil. J'y suis allé, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai défendu mes positions, j'ai toujours dit qu'on ne donne pas de voix à l'extrême droite, je l'ai toujours dit. Alors, les gens qui, évidemment, c'est tellement compliqué. Il y a deux candidats, et il faut pas donner de voix à un. Alors voyons, pince-mi et pince-moi montent sur un bateau.
Mais
pince-mi
tombe
dans
l'eau. Choses clairement.
Mais parce que je dis les choses clairement. Je ne me donne pas un droit que je n'ai pas. Et je ne fracasserai pas le mouvement que nous avons construit pour, participer aux célébrations unanimistes des plateaux. Et pardon, madame, de vous dire que ce n'est pas vraiment une bonne idée pour moi que d'appeler à voter pour des gens que je combats continuellement. Alors, ce n'est pas pareil, monsieur Macron et madame Le Pen, nous en sommes bien d'accord. Mais admettez qu'il y a quand même beaucoup de choses en commun entre les deux, notamment sur le plan économique, et notamment ni l'un ni l'autre ne veut du blocage des prix, ni l'un ni l'autre ne veut de la retraite à 60 ans et la reporte à 65 ans, etc., etc. Donc, j'ai des raisons de penser que ce ne serait pas une bonne idée pour moi d'aller me tirer une balle dans le pied.
Et justement, on est dans cette ultime journée de campagne,
oui,
Jean-Luc Mélenchon. On la termine ensemble. Enfin, vous allez quand même poursuivre encore,
oui,
vous. Merci Jean-Luc Mélenchon, en tout cas, d'avoir répondu à mes questions de confiance ce matin. Je vous retrouve tous, d'ailleurs, dimanche soir, dès 18h sur BFM TV, 19h sur RMC.
RMC Football. Samedi 4 mai à 15h, au Stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine, le 4 mai à Montpellier, avec RMC.